CJSO 101.7. La Tribune. Une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la Tribune. Voici Sylvain Rochon.
À l'émission aujourd'hui, 13 janvier, un échange avec les journalistes Stéphane Martin et Jean-Philippe Morin sur les perspectives régionales en 2026. Ce qui va arriver en 2026 dans la région. Un échange qu'on va accompagner d'une ligne ouverte pour vos questions et votre point de vue. Je vais donner le moment venu, le numéro pour nous joindre. C'est votre émission d'affaires publiques, La Tribune, jusqu'à 13h.
La Caisse des Jardins Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires vous présente la bonne nouvelle économique.
Le décret de population publié le 24 décembre dans la Gazette officielle du Québec montre une augmentation de celle-ci dans la vaste majorité des municipalités de Pierre-de-Sorel. Sorel-Tracy est crédité de 36 386 résidents, 137 de plus que lors de la dernière estimation. Yamaska compte 56 résidents de plus avec 1810. La population de Saint-Roch-de-Richelieu est fixée à 2878, en hausse de 100. Saint-Ours compte 1809 citoyens, une croissance de 40. Saint-Joseph-de-Sorel a fait le plein de 30 résidents de plus avec 1809. Sainte-Victoire-de-Sorel enregistre une hausse de sa population de 24 personnes avec 2593. Sainte-Anne-de-Sorel grossit de 25 résidents avec 2766 et Saint-Aimé-de-Sète avec une population fixée à 446 personnes. La ville de Contrecœur confirme la poursuite de sa croissance démographique avec 150 citoyens de plus.
La bonne nouvelle économique vous a été présentée par la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Après le survol de 2025 que vous proposez cette émission en décembre, ce sont les perspectives régionales en 2026 qui vont ce midi nous occuper pour discuter avec moi de ces perspectives-là. Le journaliste Stéphane Martin, du Sorel-Tracy Magazine, que vous pouvez à l'occasion lire ailleurs également. Bonjour, Monsieur Martin.
Bonjour, Monsieur Rochon.
Et aussi avec nous, le journaliste et directeur de l'information du journal. On n'invite pas n'importe qui. Du journal Les Deux Rives, Jean-Philippe Morin. Salut, Jean-Philippe.
Salut, Sylvain.
Je le dis tout de suite, là, vous n'êtes pas des Jojo Savard. Vous êtes peut-être un peu jeune pour connaître Jojo Savard.
Non, c'est connais blonde, très là, bien Jojo Savard.
Ben, tu veux dire intimement?
Ah, intimement.
Ouais. Ah, ouais, ouais. Est-ce qu'il vient de Rivière-du-Loup, ce coin-là?
Non, mais non? Je l'ai appelé à l'occasion.
Ah, ouais?
Elle m'a guidé dans ma carrière.
Et tabarouette, on, je ne savais pas qu'on allait avoir une telle révélation aujourd'hui.
On sait sur qui se fier maintenant.
Il est rendu en Floride, là, tranquille. Okay.
Bon, alors, bon, je disais, vous n'êtes pas des Jojo Savard. Vous ne prédisez pas l'avenir. Vous ne savez que ce que vous avez appris de sources tantôt non autorisées, mais fiables, tantôt autorisées. En recevez-vous beaucoup, vous autres, des informations de sources non autorisées, mais fiables?
Oui.
Ça appelle-tu beaucoup au Sorel-Tracy Magazine et aux Deux Rives? Il y a quelque chose à te dire, là, mais qu'on n'amènera pas mon nom. Là.
Ah, ça texte, ça écrit.
Effectivement, oui.
Mais tu sais, je pense que les trois, en fait, on s'est bâti une communauté sur qui on peut se fier, puis c'est un peu ça la qualité de bon journaliste.
Et j'oserais dire que lorsqu'on reçoit un courriel ou un message... Vous les avez reçus aussi aux Deux Rives, voici.
Ouais, ben c'est une petite communauté, ça va être très simple, on s'entend.
Oui. On nous dit parfois, eux autres veulent rien faire avec ça, je sais pas pourquoi.
Ah oui.
Mais on comprend rapidement pourquoi. Hein? Ouais. Oh, oui, on comprend exact. Rapidement pourquoi. ce que je voulais vous demander, est-ce que vous suivez chacun depuis longtemps l'actualité locale? On en parlait en dehors des ondes. Ouais. Je veux ramener cette conversation-là, je l'ai trouvée intéressante.
Oui, effectivement. Ben moi, ça va faire 15 ans, dans un mois, là, que je suis au journal Les Deux Rives. C'est sûr que plus assidûment, je suis l'actualité locale là, depuis 15 ans. Avant, bon, je rentrais au journal à 23 ans, mais quand même, j'avais une certaine soif d'information, même quand j'étais à l'école à l'université de Sherbrooke. Donc oui, j'adore suivre l'actualité locale. J'ai toujours été passionné de politique aussi. De sport. Donc, j'ai toujours suivi ça attentivement.
Stéphane, Martin, se posait pour toi un défi supplémentaire quand tu as débuté l'exercice de ton métier de journaliste ici Il t'a fallu, ayant été déporté du Bas-Saint-Laurent jusqu'ici, t'as envoyé avec un coup de pied dans le cul, j'imagine, à la Sorelle, ben, il t'a fallu tout découvrir sur nous, le tissu social, les enjeux, les dossiers, les intervenants. Ça n'a pas dû être évident. Là, aujourd'hui, on dirait que t'es né ici, là, mais à ton arrivée, là, ça n'a pas dû être facile. Raconte-moi donc un peu.
Comprendre les dossiers, me faire un nom là-dedans, je dois avouer que je me suis fait quand même un bon entourage de part mon ex-belle-famille qui était dans la région bien implantée. Puis une autre chose qui a aidé, c'est que j'étais à ma TV, puis à ma TV, j'ai fait une émission qui s'appelait La Visite. Donc, je me promenais d'un village à l'autre, je rencontrais tous les maires, je rencontrais des citoyens impliqués dans chaque municipalité. Un petit peu d'histoire là-dedans au travers de ça. Fait que ça m'a permis de comprendre un peu la dynamique de la région. Ceci dit, la région est comparable ici puis Rivière-du-Loup. Hein. C'est
parce que tu as commencé à Rivière-du-Loup, tu viens de là.
Oui, oui.
Tu as travaillé à la radio, je pense, à Rivière-du-Loup.
Tout à fait, les radios dans l'écrit aussi. Ça fait depuis 2020 là, que je suis dans les médias. Puis c'est comparable. Hein.
Il y a 2020?
Non, avant ça.
Ah non, 2000, pardon, excusez.
Ah, j'essaie de se rajouter, tu vois qu'on n'en passe pas des vite aux collègues.
Non, écoutez, puis j'aime ça.
Donc, la pandémie a tout reset.
En 2000. Depuis 2000 que je suis dans les médias. Mais c'est ça. Je trouve que c'est deux milieux complètement différents peut-être par la nature des événements, mais deux milieux semblables aussi parce que Rivière-du-Loup, c'est une ville-centre à laquelle se greffent une dizaine de municipalités aussi. On est un petit peu là-dedans. À Rivière-du-Loup, on est au confluent de l'autoroute 20 et de l'autoroute 85. Et ici, on est au confluent du fleuve et de la Richelieu. C'est ça.
Mais c'est drôlement important, hein, qu'est ou qu'acquière qui veut ici exercer le journalisme, cette connaissance du milieu, les petites et les grandes histoires de ces enjeux.
Oh oui, absolument, absolument.
On a perdu une consoeur qui avait une... On a parlé d'elle de l'autre côté aussi. Ouais. On a perdu une consoeur qui avait une connaissance presque encyclopédique de ce qu'anime la région, Louise Grégoire-Racicot. Elle était fabuleuse. Ouais, quelle perte énorme.
Absolument. C'était mon mentor, tu sais, que je parlais tantôt quand je suis entré au journal, il y a 15 ans. C'est elle qui m'a accueilli, bras ouverts, qui m'a appris pas mal tout, presque, du métier. Comment, justement, tu sais, on parlait tantôt d'avoir des sources, d'avoir cultivé un entourage d'une communauté d'affaires qui te fait confiance. Donc, c'est elle qui m'a appris ça. Elle m'a appris, justement, à parler des gens. Tu sais, pas parler nécessairement, des événements, mais parler des gens qui font ces événements-là. Donc, effectivement, c'est une grosse perte pour la région au niveau de l'information. Puis, je pense qu'elle nous a légué à tous, les journalistes, une certaine devoir de rigueur, devoir d'informer.
On te salue, Louise. Ouais. Ce sont des temps difficiles pour les médias d'information. C'est drôlement important, la présence puis la rétention dans les milieux comme le nôtre de journalistes d'expérience qui ont leur région tatouée sur le cœur.
Ah oui, absolument. Je sais pas si toi aussi tu peux le témoigner, là, mais c'est on s'entend là, avec tout ce qui se passe, des fausses nouvelles, avec les médias sociaux qui bloquent les médias. Ouais. Donc,
dans
c'est
un monde
plus
où
important.
L'intelligence artificielle aussi se mêle de la partie. Ouais, c'est important.
C'est important d'avoir des journalistes fiables.
Oui, de rester un phare.
Ouais.
Il y a un adage qui dit que pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Je vous propose quelques regards en arrière, pas lointains, là, sur 2025. Okay. On a eu, au printemps 2025, ce scrutin fédéral qui a vu M. Plamondon être facilement réélu.
Oui.
Est-ce que nous allons, en 2026, vous pensez, voir ses adversaires d'alors, je pense aux deux principaux particulièrement, M. Tousignan et Plourde, agir en ce que j'appellerais le chien de garde de son action, tu sais, se rappeler à sa mémoire à lui, puis à notre mémoire à nous, préparer tranquillement leur revanche. Qu'en pensez-vous?
Ben, M. Tousignan a été très clair là-dessus. Là. Il n'y a pas de retour possible. Là. Il continue son travail du côté du Maroc, si je ne m'abuse.
Ah, je pensais qu'il avait aimé ça, mais la campagne électorale. Non?
Peut-être.
Non, il avait été clair.
Fini.
Que c'était un one-shot deal, puis qu'il y en
avait
plus après.
Tu sais, c'est son 13e mandat, Louis Plamondon.
Ouais.
Si on se fie aux 12 précédents, est-ce qu'il y a eu un défait libéral ou un défait conservateur qui a agi comme chien de garde? je pense poser la question, c'est y répondre. Ouais. À chaque défaite, il n'y a pas eu, tu sais, on n'a pas assisté vraiment.
Il y a Nathalie Rochefort qui a toujours resté là pour deux élections.
Ouais.
Puis entre-temps, elle émettait à l'occasion
une
opinion.
On peut-tu dire un chien de garde qui se mêle de chacun des dossiers fédéraux? Pas vraiment. On voit que M. Plamondon navigue seul sur ce fleuve fédéral.
J'avais revenir un peu plus tard sur le contre-pouvoir, parce que moi, il me semble que c'est riche, ça, le contre-pouvoir, puis j'en vois pas beaucoup dans le coin.
Non. Moi.
Élections plus récentes que des fédérales, les municipales, ces élections en novembre ont très, très peu changé le portrait. Là où il y avait scrutin au poste de maire, le sortant a survécu, Péloquin à Sorel-Tracy, Dupuis à Saint-Ours, Chapdelaine à Saint-Roch, au coin Sainte-Victoire, Mme Allaire à contre-cœur. Ben, même question que pour les fédérales. Est-ce que les opposants ont partout, dans ces milieux-là, déposé leurs armes ou est-ce que votre baromètre vous indique que ça va brasser à des places en 2026?
Peut-être Saint-Roch. Saint-Roch, avec M. Ney, qui a quand même eu une lutte assez serrée. Là. C'était 51% pour M. Chapdelaine, pour 44% pour M. Ney.
Il a fait toute une campagne, Ney,
campagne.
Avec sa gang. Là, ouais. Il y avait des candidats à tous les postes.
C'était une campagne. Certains sont élus.
Certains sont élus.
Puis il y avait une grosse guerre, ces réseaux sociaux. Là, des citoyens qui prenaient pour un, des citoyens qui prenaient pour l'autre. Puis il y avait des insultes quasiment qui se faisaient. Puis les deux candidats étaient un peu pris au milieu de ça. Mais tout de même, la démocratie a parlé. M. Chapdelaine a été réélu, mais... Monsieur Ney, contre-attaqué, je pense, après l'élection, justement, ouais. Par rapport à un dossier de sécurité routière. Donc, on voit qu'il veut demeurer impliqué. Puis ça, je pense que c'est pour le mieux, là, pour les citoyens de Saint-Roch-de-Richelieu. Là.
Tout à fait. Et d'ailleurs, messieurs, je ne sais pas si vous étiez comme moi, mais Saint-Roch était le point d'interrogation que j'avais pour les résultats. Je me disais que ça pouvait, au terme de la campagne, je me disais que ça pouvait balancer d'un côté comme de l'autre, comparativement à toutes les autres municipalités. Où... Sainte-Victoire aussi, il y avait un gros point d'interrogation.
Un duel féroce.
Ouais. Mais finalement,
Martin Cournoyer puis Michel Aucoin. Puis Martin Cournoyer, je ne l'ai pas entendu, je n'ai pas assisté très honnêtement aux assemblées municipales à Sainte-Victoire depuis, mais je ne le vois pas sur les fameux réseaux sociaux rouspétés de.
C'en est un autre qui a dit qu'il rentrait dans ses terres. Là.
Exact. Ouais. Lui disait.
Lui, c'est le cas de le dire.
Oui, c'est le cas de le dire.
C'est terminé. C'est ça. Il tournait la page déjà. Mais ouais, c'est ça. Ça a fini 65-35 là-bas. Un petit peu moins serré. Mais pour en revenir aux autres opposants, la question que tu posais, je ne crois pas que, exemple, un Claude Bérard à Saint-Gars contre cœur, qui était défait par Maud Allaire. Il était quand même conseillé pendant longtemps, mais je ne crois pas qu'il va se présenter.
Sauf qu'à contre-cœur,
M.
Laprade.
Oui, mais M. Laprade est conseiller.
Oui, mais c'était l'adversaire juré de Maud Allaire, pas à la mairie, mais de son administration. Mais, et là, il siège avec. Là.
Pour avoir écouté la première séance en décembre, ça ne se calmera pas à contre-cœur. Et les sièges sont pleins là-bas, contrairement à Sorel-Tracy, où il n'y a presque personne dans les salles de conseil. Regardez sur YouTube une séance de contre-cœur avec du popcorn, là, vous allez être servi et vous allez probablement finir votre popcorn avant la fin de la séance. Là. Parce que je pense qu'il y a une séance de 2 heures, il y a 30 minutes de séance, puis il y a 1h30 de questions.
Okay.
Puis c'est quelque chose. Là. Fait que j'ai hâte de voir là-bas, c'est pas nécessairement l'opposant qui va amener des questions, mais vraiment les citoyens qui sont très, très, très impliqués dans l'affaire municipale. Là.
Saint-Ours, il y a eu quand même une bagarre. Là.
Oui.
Il y en a un en particulier qui a joué dur. C'est le spécialiste des bagarres dans la ville, là, qui fait du taekwondo, je ne sais pas quoi.
Oui, exact. Mais je ne sais pas si les deux opposants vont vraiment s'impliquer par la suite. Honnêtement, on a peu entendu parler, exemple.
Sur les réseaux sociaux, je vois Alain Chapdelaine commenter quelques publications sur Spot Saint-Ours, entre autres.
Alain Chapdelaine?
C'est pas Alain Chapdelaine.
Non, mais là, j'ai... OK.
Alain Théberge.
Merci beaucoup. Vous voyez que la mémoire fait défaut après seulement quelques mois.
On excuse son âge, là, c'est pas vrai. On va être comme ça, nous autres, si au tien. Là. Alors, lui, il se fait valoir de temps à autre.
Oui, de temps à autre. On voit qu'il demeure alerte, qu'il suit les dossiers, entre autres, de l'avenir de l'Église aussi.
Bon, et puis, tu sais, ça, c'est un appel aussi à tous les citoyens, pas nécessairement quand tu étais candidat ou pas, c'est de suivre l'affaire municipale. C'est quand même, on a assisté au budget en décembre, là, les comptes de taxes. Vont être envoyés en janvier là, pour toutes les municipalités. Donc, en décembre, les villes ont adopté leur budget, certaines en janvier. il faut suivre l'affaire municipale pour savoir si, pas juste savoir si nos taxes sont montées, savoir quel genre de projet arrive.
Je reviens sur mon contre-pouvoir, puis je vais en parler de tes budgets. Le contre-pouvoir, vous ne trouvez pas qu'il est très peu présent dans Pierre de Sorel? Vous ne trouvez pas qu'une fois élus, nos maires, nos mairesses, nos députés, ils ont la vie relativement facile? Ils se font pas écœurer, là.
Mais si on parle de politique...
C'est peut-être parce que je suis jaloux, parce que moi, du temps où j'étais député, Jean-Bernard Raymond ne lâchait pas le morceau. Ah. Il voulait l'être à son tour. Ouais, puis il a passé mes 3 ans et demi de mandat là,
c'est intéressant, ça.
À rouspéter surtout. Ben, ça a été payant, il a fini par être élu.
Tout à fait. Mais je trouve que la politique municipale... souvent, la population, la seule chose qui intéresse, c'est de savoir est-ce que mon compte de taxes va monter ou pas. Puis après ça,
Il y a des projets.
Plus impliqués.
C'est ça. Quand il y a un projet qui sort... On voit des fois des citoyens. Ah, OK, il y a un règlement d'emprunt de quelques millions. On voit.
Un nouveau développement. Ouais. Quelque part, tu as des citoyens qui vont se lever, qui vont dire je veux pas nécessairement un nouveau voisin. Ou,
je veux pas. Quand c'est dans ma cour, on dirait que là, les citoyens sortent. Mais tu sais, par le contre-pouvoir, effectivement, on dirait que les citoyens sont tellement préoccupés par ce qui se passe chez eux, à proximité de chez eux. Peut-être quand il y a un gros projet qui s'en vient dans leur cour, là, ça va les faire manifester. Mais je ne crois pas, en tout cas, à la lumière de ce qu'on a vu des municipales, je ne crois pas qu'il y ait un candidat qui va vraiment, tu sais, justement...
Okay. Les budgets ont été déposés aux quatre coins de Pierre de Sorel. Je dis les, pas tous, je pense. Il y en a peut-être encore quelques-uns à venir.
Il en reste deux. Il reste Saint-Roch et Sainte-Victoire. Je sais qu'il y en a un qui va être la semaine prochaine.
C'est imminent, là.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des résidents qui auront, en recevant leur compte de taxes de 2026, de plus mauvaises surprises que d'autres? Je sais que toi et ton équipe, Jean-Philippe, avaient fait pas mal le tour là, des administrations municipales.
Oui, on a fait le tour. Il y a des bonnes hausses de budget, mais il y a des bonnes hausses de taux de taxes. Mais c'est sûr que quand on a un nouveau rôle d'évaluation municipale, ça vient jouer aussi. Parce que aux 3 ans...
Tu baisses le taux de la taxe. Là.
Oui, mais des fois, tu le baisses pas beaucoup.
Ouais.
Ou tu le baisses pas assez. Mmh. Ou... Je suis pas là pour juger si on l'a baissé trop ou pas assez, mais quand même, ça fait en sorte que les maisons ont tellement explosé. On va prendre Sorel Tracy, par exemple, qui est la ville-centre. Bon, 3,95% de hausse de taxes pour la maison moyenne. Par contre, la maison plus chère va augmenter un peu moins sur les 3 ans. Donc, ça fait en sorte que le taux de taxe va baisser, que le compte de taxes va baisser. Et la maison moins chère, exemple la maison mobile qu'on peut prendre, elle va monter beaucoup pour venir rattraper. Donc là, la variation de taxes va être très élevée. On parle, mettons, une maison mobile.
Parce que les moins en moyen vont avoir une plus grosse augmentation de taxes, puis les plus en moyenne, une moins grosse augmentation
de taxes. C'est un peu paradoxal. C'est ce que j'ai posé à Patrick Péloquin.
C'est particulier.
Est-ce qu'on pouvait mettre deux taux de taxes? T'sais? Un pour, exemple, les mieux nantis, et un pour les moins bien nantis. Malheureusement, on ne peut pas faire
ça
ne marche pas de même. Ouais. Mais c'est parce que les maisons les plus en demande seront ceux qui vont subir le plus aux taxes. C'est fait comme ça parce que, bon, aux 3 ans, les rôles d'évaluation changent. Mais ça va être assez, ça va être ça. T'sais, exemple, contre-cœur à 2,9% pour la maison moyenne. C'est dans la marge d'erreur, comme on dit. L'IPC, c'est à peu près 2,2%. Bon, 2,9, c'est pas si mal. Mais on a des, exemple, Saint-David à 10%. On a des Saint-Joseph, eux aussi ont changé de rôle à 7% pour la maison moyenne.
C'est quand même une bonne augmentation, 7%. Ouais. Là,
Massouville, 6,5 à Saint-Joseph, c'est ça. J'ai Saint-Robert, j'ai plus de 10%. Il y a des municipalités, des fois, là, que c'est difficile parce que, premièrement, ils ont, exemple, une petite municipalité pour avoir un gros projet qui coûte cher. Oui, ils ont une subvention, mais à un moment donné, tu n'as pas le choix d'aller chercher l'argent quelque part. Donc, ça peut être difficile pour certaines.
En même temps que leur budget, c'est pris que ça va vite, ça n'a pas d'allure.
Ouais.
En même temps que leur budget, les administrations municipales déposent leur programme triennal d'immobilisation. Ouais. Apparaît à celui de Sorel Tracy la réfection en 2026 de la rue Georges entre les rues du Prince et de la Reine. Est-ce qu'on doit s'attendre, messieurs, à un psychodrame commercial comme on en a eu un dans le cas du Prince et Augusta? Qu'en pensez-vous?
Je ne penserais pas. Parce
non?
Que, je pense qu'on a peut-être retenu notre leçon un peu. Là. Parce que côté communication, on a quand même demandé aux citoyens, aux commerçants du centre-ville, est-ce que vous voulez qu'on fasse Roy et Augusta? C'était quoi? C'était Prince, et Augusta en même temps, la même année? Ou vous voulez qu'on le fasse 2 fois en 2 ans? Finalement, on l'a fait en 2 ans parce que les travaux se sont étirés, mais il y a eu de la grogne parce que je pense que les citoyens n'étaient pas au courant de l'ampleur des travaux. Là, on gardait les commerces ouverts, mais quand même, c'était très difficile d'accès et tout ça. Oui. Je pense qu'on a retenu un peu notre leçon pour la rue Georges. Les commerçants sont déjà au courant, donc
Mais ça va faire mal, pareil.
Mais on n'aura pas le choix. À un moment donné, il faut les faire.
Ça ne peut pas ne pas faire mal.
On veut pas qu'il y ait un fougas qui arrive. T'sais, deux fois le fougas, un tuyau a pété, comme on dit. Là.
Oui, oui.
Puis là, les inondations, tout ça. Fait on n'aura pas le choix.
Ça... Es-tu aussi optimiste que ton collègue, toi, Stéphane?
Ben, écoute, c'est un travail de prévention qui est fait là-dedans. Je dois dire, comme Jean-Philippe, que le côté communication lors de la première phase des travaux avait été quand même extraordinaire. À la ville de Sorel-Tracy, on avait quasiment mis quelqu'un à temps plein là-dessus. Ouais.
Quelle tâche ingrate elle a eue, hein?
Oui, tout à fait.
Elle a bien fait ça, Maude Péloquin.
Maude Péloquin, tout à fait, qui était à temps plein là-dessus. C'est de recevoir les doléances de chacun des commerçants. Tu sais, c'est des travaux qui sont malheureusement nécessaires. Ouais. Comme client, c'est chiant. On l'a vécu, mais bon.
Mais tu sais, c'est ça. Puis là, en même temps, on veut faire le quadrilatère, là, le fameux quadrilatère Roi, Augusta, Prince et Georges. Le faire, tu sais, comme un centre-ville, là, ouais. Avec du béton, un peu comme on a fait en ce moment.
On va enlever encore du stationnement, ça va faire plaisir.
Alors, embarque-moi pas là-dedans, là.
Non, mais ça, c'est l'enfer, ça.
Ah, ben là, ça...
Mais non, mais toi, tu travailles là, au centre-ville. Est-ce que tu peux témoigner que c'est de plus en plus difficile de trouver un stationnement?
Ben, ça a changé. Stationnement
j'ai mon stationnement, au
Je le sais, là. Oublie-les ton stationnement, là. Moi, je suis un résident du centre-ville. Oui. Moi aussi, j'ai mon stationnement.
Oui.
Mais si je décide de ne pas l'utiliser...
Oui.
Je vais chercher longtemps. Là. C'était pas comme ça avant. Non, c'est ça.
Mais il y a quelques endroits un peu plus loin. Faut mettre en perspective. Par exemple, tu t'en vas à Montréal. Tu vas marcher un bon 5-6 minutes pour te rendre où tu veux. Nous, bon, si tu stationnes au coin, en face de l'ancienne aquarelle, il y a un stationnement public.
Il y a un stationnement là.
Il y a le centre Sacré-Cœur, je crois que c'est un stationnement public aussi. Fait qu'il y a certains stationnements que tu peux stationner puis marcher un peu, mais je comprends, il y a une clientèle aussi un peu plus âgée. Il faut que ça stationne à proximité.
C'est ça, clientèle âgée, c'est là. D'un autre côté, le type de commerce qu'il y a au centre-ville, c'est pas une épicerie. Là. On n'a pas à faire 15 km avec une dizaine de sacs. Là.
C'est ça.
C'est ça.
Les amis, on va s'interrompre pour quelques publicités. Ne vous inquiétez pas, on va parler des élections québécoises. Moi, je garde ça comme la cerise sur le Sunday à 12h45. Je veux, après les publicités, que nous parlions un peu d'économie.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, cuisine et chambre à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à tous vos besoins. Nos conseillères pourront vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km.
On est trois grandes
gueules. Visitez le meuble beaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Meubles André Beaulieu, spécialiste en matière de mobilier de qualité de génération en génération.
Express Pub. Venez déjeuner pour la bonne cause au resto de Cessna de l'aéroport de Sorel. Du jeudi au dimanche, choisissez le déjeuner Cessna Plus et 2 $ sera remis au vaisseau d'or. Un organisme aidant les familles ayant un proche vivant avec un trouble de santé mentale. Le resto de Cessna, 157 Rang Bellevue, Saint-Robert.
Dans Valérie l'après-midi, ce mardi, Sylvain Rochon y sera pour les informations régionales. Le Canadien dispute 4 matchs cette semaine. On en parle avec le journaliste sur le beat du CH, Richard Labbé, à 16h35. C'est un rendez-vous dès 15h30.
CJSO Triple solide, solide, solide.
Achetez une publicité
et obtenez-en 2 de plus
gratuitement.
Vous êtes un commerçant
et vous souhaitez donner plus de visibilité
à votre entreprise?
Faites parler de vous 3 fois plutôt qu'une à la radio.
Quel que soit votre secteur d'activité,
faites votre entrée sur nos ondes
et découvrez une nouvelle façon d'élargir votre réseau dans la région
et plus loin encore,
sans effort.
Triplez vos chances de montrer qui vous êtes
et propulsez votre entreprise avec la promotion
CJSO Triple Solide. Solide. Solide.
Informez-vous.
Certaines conditions s'appliquent.
Promotion et diffusion d'ici le 31 mars.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
Je suis avec les collègues Stéphane Martin du Sorel-Tracy Magazine et Jean-Philippe Morin des Deux-Rives sur les perspectives régionales en 2026. Nous ouvrons nos lignes à celles et ceux qui voudraient ajouter leur grain de sel à notre échange. 450-743-2772 pour nous joindre, pour ajouter vos perspectives à vous ou y aller de questions à nos deux experts de l'actualité locale. Économie, messieurs, 2025 a été une année de grande incertitude au plan économique à cause notamment du bonhomme orange là, aux États-Unis. Il y a peu de chances que ça se calme en 2026. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est encore là, lui-là? Là,
ben, c'est ça, il est encore là. En même temps, j'ai parlé à quelques entrepreneurs hors micro, mais qui me disent, écoute, nous autres, comme hommes d'affaires, là, on fait pas un plan d'affaires année après année. Là. On voit plus loin que dans 3 ans. Dans 3 ans, il sera plus là, Donald Trump. Là. Fait qu'un bon homme d'affaires attention, est capable de voir loin. Tu penses qu'il est capable de rester?
Ah, il peut bien partir une guerre pour retourner au pouvoir.
Ouais.
Non, mais il a dit que la Constitution ne prévoit rien là, pour les mandats non consécutifs.
Ah,
OK.
Tant que le premier comptera pas. Là.
Ah, ouais, peut-être. Ouais.
Ça comptait pas.
Bon, arrête, je parle plus de ça, on va brailler, là. Chez nous, il y a les poudres métalliques qui ont fermé leurs portes et le complexe métallurgique de Rio Tinto à Sorel-Tracy qui est en quelque sorte à vendre. On va aller du côté du téléphone. Je joins à la discussion Serge Bergeron qui a été un haut cadre chez QIT Ferritstan. Il a aussi, M. Bergeron, dans ces années-là, présidé aux destinées de la Chambre de commerce. Bonjour, Serge.
Salut Sylvain, salut à vos invités.
Bonjour.
Dis-moi, les poudres métalliques, Serge Bergeron, qui ont fermé fin décembre, en termes de profitabilité, elles n'ont pas toujours été les poudres de l'enfant pauvre de Ferritstan? Il me semble que ça a même déjà été le contraire, non?
Oh, les prix ont fluctué beaucoup, puis le développement du marché aussi a été beaucoup affecté au début des années 2000, là. Quand Rio Tinto commençait à mettre son nez dans un peu nos affaires, disons-le de même, là, parce que Rio Tinto a acheté le groupe en 1989, mais ils n'ont jamais été présents. Mais à partir de 2005-2006, ils ont commencé à entrer dans notre maison. La première gaffe qu'ils ont faite, c'est que les poudres avaient un département technique qui résoudait les problèmes des clients. Et puis, Rio Tinto a dit, ben pourquoi que nous, on offrirait un service aux clients? C'est à eux autres d'avoir un département technique pour régler leurs problèmes. Là, c'était le début de la descente aux enfers. Tu sais, quand tu n'as plus d'attache avec ton client, puis il peut prendre son produit n'importe où parce qu'il n'y a pas d'avantage, ben il te laisse tomber. C'est un peu ça qui est arrivé.
Il va advenir quoi, Serge? Je m'excuse, j'accélère, là. Il va advenir quoi de ces installations, de cette usine-là, des poudres métalliques, tu penses? Est-ce que ça se recycle? Est-ce qu'on peut y mener d'autres activités? Il va arriver quoi avec ça?
L'autre inconnu, c'est que Rio Tinto, depuis un an ou deux, veut vendre sa section Minerals. Puis dans la section Minerals, il y a les poudres, puis le complexe à Sorel-Tracy. Les poudres, c'est un complexe intégré à Sorel-Tracy. Donc, ça fait partie de la division. Puis la division avant RTFT était forte là, parce qu'il y avait une autre usine jumelle en Afrique du Sud. Il y avait le gisement de minerais là, à Madagascar. Puis en 2012, Rio Tinto a décidé de vendre sa participation de RBM à un concurrent, je ne sais pas quelle compagnie là, exact. Là. Je pense que c'est Chemours. Chemours a acheté sa participation puis ils sont départis de ça. Là, ils ont perdu un peu leur prédominance dans le marché. Alors là, les minéraux dont fait partie les poudres, les sorelles, ils sont vraiment désavantagés. Ils sont plus prépondérants dans le marché. Avec la transaction avec Glenmore.
Oui, oui, c'est ça. Ben, je voulais t'amener là. La méga fusion étudiée par Rio Tinto et Glencore, ces deux géants des matières premières, est-ce qu'elle donnerait cette méga fusion-là? On dit que ça donnerait naissance à une entité valorisée de 260 milliards de dollars US. Est-ce que ça nous serait favorable, toi? Qu'est-ce que t'en penses?
Ben, tu sais, les minerals là, dont on fait partie à Sorel-Tracy, c'est une peanut, c'est même pas 1% de toute la business. Parce que moi, j'ai l'impression que ce qui va arriver, ils vont vouloir s'en débarrasser, ils l'ont déjà mis en vente. C'est Rio Tinto qui veut s'en débarrasser, il comprend plus rien dans le business, puis ils font pas beaucoup de profitabilité. Le scandium, c'est ça qui tient un peu la division, parce que c'est un terrain minéraux rare là, qui est en demande. Mais le problème, c'est qu'il vient il est extrait à partir des résidus de la production de dioxyde de titane. Donc, faut que tu maintiennes l'usine. de bioxyde de titane. Là, tu n'as pas nécessairement besoin du fer puis de l'acier puis de la poudre, mais c'est un sous-produit, le fer. Faut que tu le valorises soit en billette ou soit en gueuse. Mais là, les poudres, ça devient... c'est pas beaucoup d'utilisation dans le fer liquide, là. C'est sûr que ça va rester éteint. Ce business-là est vraiment spécialisé, puis ça demande beaucoup de capitaux puis d'investissement. Fait que je pense que ça revivra pas.
Bon, ben Serge Bergeron, je te remercie de nous avoir partagé ton éclairage. Je sais que tu t'en vas jouer au curling, là. Fait que bel et bien. Et merci de nous avoir parlé. Merci, Serge.
Fait que Rio Tinto ne nous balaye pas à son tour.
Bon. Ouais, souhaitons-le. Merci beaucoup, Serge Bergeron. Merci.
OK, merci.
Bye. À la prochaine. Vous avez entendu. C'est pas l'amour. Ça n'a jamais été l'amour entre Rio Tinto et Serge Bergeron. Il a mené cet homme-là un grand combat pour les pensions là, des retraités, ouais. Cadres et non-cadres. Ils ont fini par gagner en partie cette lutte-là. On n'a pas le temps d'en parler avec lui. Ouais. Là, mais,
il y avait eu des manifestations en passé, il y a 2 ans.
Oui.
Et dans tout ce dossier-là, ce qui est difficile, c'est que
On dit difficile.
Difficile. Oui. Ça se joue complètement sur un autre continent. Ça se joue ailleurs. Ouais. Les négociations, c'est toujours avec l'Angleterre.
Ah ouais. Puis rappelons, là, 34 des 181 syndiqués, hein, les poudres. Donc, c'est beaucoup d'emplois. Certains se sont déjà replacés. Donc, à suivre.
On retourne du côté du téléphone, Jean-Philippe et Stéphane. On passe de l'économique au social. On a fait tous les trois des textes sur Geneviève Coutu,
oui.
Qui pendant plus de 5 ans s'est occupée à la maison de son mari, atteint d'Alzheimer précoce, il est décédé tout récemment. Ça n'a pas conduit, Geneviève, d'ailleurs j'ai vu aujourd'hui qu'elle faisait la une des deux rives, ça n'a pas conduit Geneviève à abandonner la lutte qu'elle mène pour une meilleure reconnaissance des proches aidants. Nous l'avons au bout du fil. Bonjour Geneviève Coutu.
Bonjour.
Avant de parler de la pétition fédérale, Geneviève, la pétition fédérale en ligne là, que nous n'avons plus que quelques jours pour signer, il y a eu une pétition de déposer à Québec, à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'elle demandait, celle-là, et puis quelles nouvelles depuis?
On demandait, dans le fond, de reconnaissance officielle des proches aidants et un salaire qui aurait de l'allure pour le travail qu'on fait et ce qu'on fait économiser aux contribuables et au gouvernement. Dans le fond, même si on nous donnait un salaire, on économiserait encore. Et en plus, on aiderait à désengorger les CHSLD. On a déposé ça à l'Assemblée nationale le 7 octobre. Moi, j'étais là avec une qui m'aide beaucoup pour la pétition, qui s'appelle Cynthia. On était dans les tribunes. Mme Caron, Linda Caron du Parti libéral du Québec a marrainé la pétition. Puis
quelle nouvelle depuis?
Innovation.
Quelle nouvelle depuis ce temps-là?
On n'en a pas eu encore parce qu'on m'a expliqué, vu qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de changements pour le rôle de ministre des Aînés, ça l'a changé comme 3-4 fois depuis. On s'attend à avoir des nouvelles plutôt en février. Mais moi, j'ai l'intention de relancer Mme Bélanger, la ministre des Aînés, la semaine prochaine.
La pétition fédérale, elle, on peut toujours la signer, mais il reste quelques jours. On le peut jusqu'à quand?
Jusqu'au 16 janvier, 3h24 l'après-midi.
OK, vous êtes précise. Elle demande quoi, elle, la pétition fédérale?
Au fédéral, on ne peut pas demander un salaire, mais on peut demander une compensation financière, c'est ce qu'on demande. Un peu comme dans le style d'une allocation familiale pour enfants. On demande aussi d'étirer les semaines de chômage proche aidant, parce que quand on est proche aidant, on a droit à 16 semaines de chômage payées par le gouvernement. On demande d'allonger les semaines, mais aussi on demande... Du répit pour les proches aidants.
D'accord. Les gens qui voudraient trouver le lien vers la pétition, vous allez sur cgso.ca, sur la nouvelle concernant la lutte de Geneviève, on retrouve là, ce lien-là. Oui, vas-y,
oui,
Jean-Philippe.
Oui, c'est Jean-Philippe du journal Les Deux Rives. Je sais que vous accordez beaucoup d'entrevues localement, dans les médias nationaux aussi. Vous avez un compte TikTok aussi. Pourquoi vous menez ce combat-là? Je sais que, bon, votre amoureux est décédé récemment, mais pourquoi vous continuez de mener cette bataille-là? Pourquoi c'est important pour vous?
Je le fais pour les autres. Si quelqu'un l'avait fait avant moi, j'aurais pas eu à aller... Parce que moi, ceux qui savent pas, pour être capable de joindre les deux bouts, quand je m'occupais de mon mari, j'ai perdu mon emploi en février 2024, j'allais faire des collectes de dons dans les épiceries. J'allais avec ma petite table, ma petite boîte, je demandais des sous pour m'aider à survivre. J'avais un GoFundMe Là, je suis en train de retirer mon propre fonds de pension parce que je suis pas prête à retourner travailler. Il est décédé au mois de novembre. Mm-hmm. Donc, j'ai dit, c'est pas vrai que d'autres gens qui vont souffrir comme j'ai souffert monétairement. Je le fais pour l'avenir aussi du Canada puis du Québec parce que ça va juste être... Parce que ce qui arrive en ce moment, c'est que la population vieillit. Puis les gens ont de moins en moins les moyens d'arrêter de travailler pour s'occuper de ces gens-là parce que le coût de la vie a explosé. Donc, on va se trouver avec une situation extrêmement difficile d'ici 2, 3, 4 ans parce que les baby boomers sont à l'âge... ils vieillissent, hein? Puis il y en a beaucoup qui sont dans l'âge d'avoir besoin des prochains dents. Mais si les gens n'ont pas les moyens d'arrêter de travailler, ils vont tous en aller dans les institutions. On est déjà en crise en ce moment dans les CHSLD, ça va exploser encore plus.
Est-ce que, ma dernière question, Geneviève, est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que votre combat est réaliste? Je sais, c'est presque choquant d'entendre cette question-là, sans doute pour vous, mais est-ce que les proches aidants peuvent réalistement espérer une amélioration de leur sort fiscal?
Je pense que ça va être beaucoup de travail encore. Moi, je pense qu'on va avoir quand même... J'espère qu'on nous donne quelque chose, peut-être pas tout ce que moi je demande, mais moi je vais continuer le combat pour... Moi, je vais pas me contenter des pinottes. Parce que c'est pas si tu me donnes, mettons, 200$ par mois que ça va changer. Ça changera pas. Ça prend vraiment un salaire. Puis, je vous dirais que du côté du Québec, du provincial,
tous les partis...
Sont d'accord avec moi, sauf un parti. Puis, sont tous d'accord avec moi. J'ai leur appui. Moi, j'ai Paul Saint-Pierre Plamondon qui voulait appuyer ma pétition aussi, mais Mme Caron l'a répondu plus rapidement. J'ai eu beaucoup de les médias aussi. Ils ont contacté Mme Bélanger pour lui donner un peu de pression. Puis, ils ont dit, oui, on travaille sur quelque chose. Fait que je suis certaine qu'il y a quelque chose qui va sortir. Ça va-tu être ce que je demande au complet? Peut-être pas, mais on va continuer à se battre pour se rendre où ce que moi je demande qu'on soit.
Merci Geneviève Coutu et compliments pour votre courageux accompagnement de votre mari puis de votre non moins courageux combat pour les prochains aidants.
Juste vous dire, ça prend 16 ans et plus pour signer la pétition. C'est pas 18 ans et plus, fait que faites signer vos jeunes, là.
Merci Geneviève, merci beaucoup. Stéphane et Jean-Philippe ont fait une pause et de l'autre côté, on va parler des élections québécoises.
Ne manquez pas le prochain match de vos éperviers face au Coup d'FM ce jeudi 20h en direct du Centre sportif de Saint-Georges. Branchez-vous ou connectez-vous dès 19h45 pour l'avant-match en compagnie de Jasmin Laberge. Le hockey des éperviers à CJSO est une présentation de Hyundai Kia Sorel-Tracy, membre du groupe Olivier, Jim's Rotisserie et Chichetahouk, Pizza Sema, les salons S, Jacques et Fils, ProSyn Sécurité, Shaker Cuisine et Mixologie, ainsi que Tigre G. Le hockey des éperviers à CJSO, du hockey typiquement sorellois.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, cuisine et chambre à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à tous vos besoins. Nos conseillères pourront vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez le meuble beaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Meubles André Beaulieu, spécialiste en matière de mobilier de qualité de génération en génération.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaulieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Avec moi en studio pour échanger sur les perspectives régionales en 2026, Stéphane Martin du Sorel-Tracy Magazine et Jean-Philippe Morin du journal Les Deux Rives. Vous pouvez vous joindre à nous, poser vos questions, exprimer votre point de vue en composant le 450-743-2772, 450-743-2772. Il y aura en 2026, en octobre, des élections québécoises. À 10 mois de ces élections, les amis, on n'est pas fixé sur grand-chose dans Richelieu, même pas sur le désir du sortant, M. Émond, de solliciter un renouvellement de mandat. Je lui ai posé la question en décembre et il a dit qu'il ne le savait pas. Il va y aller ou il n'ira pas, vous pensez? C'est pas bien ben tentant à la lumière des sondages, franchement, là, hein, franchement.
D'abord, Sylvain, la question qui brûle les lèvres de tout le monde, est-ce que Sylvain Rochon sera candidat pour le Parti québécois aux prochaines élections?
On va y venir. On va regarder le suspens. Ah oui? On va regarder le suspens.
Okay.
On va parler du PQ. Non, parlons de la CAQ avant.
Oui, parlons de la CAQ.
Jean Bernard, est-ce qu'il va y aller ou il n'ira pas, vous pensez?
C'est dur à dire, hein, mais...
Moi, je dis qu'il n'ira pas.
Ouais, moi aussi.
Moi, c'est ma prédiction. Toi aussi, hein?
Ben, c'est... Bon, regarde, juste pour l'instant, j'ai les Q625 qui fait les sondages et qui met évidemment le PQ fort, FORT, là, dans la région à 51%, plus ou moins 8% de marge. C'est majeur, là, un vote sur deux dans la région. Après ça, la CAQ à 23%. Le Parti conservateur, troisième à 11%. Après ça, le Parti libéral à 9% et QS à 4%. On s'entend, c'est un sondage, là, mais quand même à 10 mois des élections.
Et en même temps, tout bon candidat va avoir la fameuse ligne qui dit « On se fie pas sur des sondages pour se présenter ou non en politique. »
Mais... tout bon candidat, là, regarde les sondages.
Mais c'est ça.
Voyons.
Exact.
Est-ce que vous avez le sentiment que la CAQ est morte et enterrée ou quelque chose pourrait-il faire bouger l'aiguille positivement pour elle, genre un changement de chef? Ça a réussi aux libéraux fédéraux, qui s'en allaient au cimetière avec Justin, et puis avec Mark Carney, ils ont littéralement ressuscité. Bon, gouvernement minoritaire, mais ils ont ressuscité, ils s'en allaient.
Ben oui.
Ils s'en allaient au cimetière.
Ben, tu le sais plus que tout le monde, en politique, 9 mois, c'est une éternité.
Exact. Ouais.
Tout peut se passer. Tout peut se passer. Oui, il y a une chute libre incroyable, là, je pense que... Je suis jeune, là, mais j'ai jamais vu ça, une chute aussi brutale
à ce point, là,
de 90 députés à zéro projet. C'est peut-être ça, là. Donc, j'ai jamais vu ça, mais tout peut se passer. Tu l'as dit, les libéraux ont carrément viré le bateau de bord avec Mark Carney. Donc, moi, je dirai jamais en politique.
Le PQ, bon premier, avec plusieurs points d'avance, particulièrement chez les francophones, mais toute clientèle, là, en général, plusieurs points d'avance. Est-ce que ça va durer ou les électeurs vont s'en détourner réalisant le référendum qui vient avec? C'est pas sûr que tout le monde a réalisé qu'il y a un référendum qui vient d'élection du Parti québécois.
Oui, c'est ça.
La campagne va être majeure. La campagne peut tout changer. Oui, avant la campagne, on s'entend, ça peut encore bouger beaucoup, là. Mais le message qui va passer lors de la campagne, M. Saint-Pierre Plamondon, est-ce qu'il va être entendu, est-ce qu'il va être écouté? C'est ça qui va déterminer si les votes vont bouger ou pas. Pour l'instant, il est bien en selle, tu l'as dit. Je pense que les gens se disent que c'est la seule alternative pour enlever la CAQ. Il va y avoir probablement M. Milliard qui va être couronné du côté des libéraux dans quelques semaines, quelques mois. Donc ça, est-ce que ça va changer la donne? Est-ce qu'on va se dire « Ah, finalement, les libéraux sont une alternative? »
Oui.
C'est là qu'on va voir.
C'est ça, 2026. Parce que Milliard, là, le chef bientôt couronné du Parti libéral du Québec, c'est un peu injuste de parler de couronnement parce qu'il en a fait une course là, la précédente. Là, on voit bien là, que ça s'en va vers...
Mario Roy a une dette de plus de 10 000 $ Il ne pourra pas la rembourser probablement.
Puis en plus, il n'y a aucune chance.
Puis il n'y a aucune chance, il était à 1% à la dernière course. Mm-hmm. Je ne vois pas pourquoi M. Milliard gagne.
Bon, alors, Charles Milliard, le chef bientôt couronné du Parti libéral, il pourrait pas ravir des votes, lui, à PSPP, chez les électeurs qui ont envie, après plusieurs années de François Legault, d'un vent de fraîcheur. Tu sais, il fait nouveau, il fait jeune. On dirait qu'ils ont un peu le même casting tous
c'est
les
ça,
deux.
Ouais.
Mais je vais me répéter, là, mais
ça
9 mois,
jouer
c'est,
un tour.
C'est une éternité en politique, 9 mois. Fait que oui, il pourra en ravir la question. Là. Sauf que là, il va vraiment falloir qu'il aille en région. Parce que en dehors de Montréal, là, c'est très difficile pour les partis libéraux, même dans les intentions de vote en ce moment. Donc, il va falloir qu'il fasse ce que la CAQ a fait. Elle est allée en région, puis elle a été chercher les votes un peu plus loin de la région métropolitaine, puis un peu plus loin de Québec. Donc, ça va être le fun à voir en 2026.
Avec des candidats qui ne sont pas des candidats poteaux, des candidats parachutés aussi. Là.
Mais oui, 125 candidats solides.
Soyons local, Milliard. Ancien directeur général de la Fédération des chambres de commerce. Des chambres de commerce. Est-ce que vous me voyez venir?
Elvis Gratton?
Ah non! Sylvain Dupuis, ancien DG de la Chambre. Mais ris pas! Ancien DG de la Chambre de commerce, ici, il doit bien le connaître. Oui. Il a déjà été intéressé par l'investiture libérale. Plus que ça, il a brigué l'investiture libérale. Vous pensez pas que ça pourrait y tenter?
Ben oui.
En plus, là, il est libre comme l'air actuellement.
Il fait partie des rumeurs autant que toi pour le Parti québécois.
On va-tu y venir à ça?
Oui.
Au PQ, c'était la dernière fois Gabriel Arpin, Est-ce que ce sera encore lui ou vous pensez qu'avec les sondages, ça se bouscule aux portes du parti de M. Saint-Pierre Plamondon pour être candidat?
Doit y avoir investiture.
Alors, pour répondre à votre question, je ne fais pas partie de la bousculade.
Non? Ah, OK.
Merci.
Ah, êtes-vous soulagé?
Oui, maintenant que c'est on the record.
Puis vous souhaitez que ça ne change pas, j'imagine, parce que, tu sais, c'est sûr que...
On t'aime bien trop autour de
ben oui, mais ah, c'est oui. Ça, vous me perdriez, là.
Comme collègue.
Ouais.
Non, on veut te garder avec nous.
Là, il faudrait que vous m'affrontiez plutôt que de jaser avec moi.
C'est ça, exactement.
Ça serait tout à fait différent comme dynamique. Bon, mais... est-ce que vous pensez que ça se bouscule? Oui. Aux portes du Parti québécois.
J'ai pas de nom.
Puis Arpin va-t-il être le candidat, vous pensez?
Non, je pense qu'il va être dans l'investiture.
Oui.
Je pense qu'il va être.
Mais à
présent.
La fin?
Je ne sais pas. Je pourrais pas répondre. Je veux pas être malhonnête avec les auditeurs parce que je ne sais pas. Puis je veux pas dire n'importe quoi. Moi, mon feeling, c'est qu'il va y avoir plus qu'une candidature. Je pense que ça va être. Ouais, je pense que ça va se bousculer parce que justement, comme j'ai dit tantôt, 51% d'intention de vote dans Richelieu. Donc, visiblement, la personne qui va se présenter va être élue ou prêt. Tu sais.
Alors, les opportunistes, ils ont un juste sondage.
J'ose pas dire ça. Il y en a qui sont impliqués depuis peut-être longtemps dans le PQ.
Oui, donc, oui. Non, mais c'est opportun une candidature maintenant. C'est plus facile là, quand, genre en 2015. Là,
c'est sûr. Bon. Mais je pense que ça va se bousculer aux portes. Peut-être deux ou trois candidatures, je sais pas, mais. C'est mon feeling. Ouais.
Bon, j'ai fait exprès de parler d'opportuniste parce que ce sera une élection bien particulière. Il va falloir ici, dans le comté, que se pointent non seulement des défenseurs et défendresses ou défenseuses, je ne sais pas comment il faut le dire, là, des intérêts du comté, mais des mesdames et messieurs Québec et Canada. Il va falloir que se pointent des fédéralistes et des indépendantistes convaincus. Ouais. Est capable de nous convaincre que leur thèse constitutionnelle est la meilleure.
Mais je pense que
il suffira pas d'être candidat libéral puis de dire je veux telle et telle chose pour le comté, mais être candidat PQ, je veux telle. Si le PQ rentre là, au gouvernement, il va avoir un référendum. Là.
Ouais, c'est ça.
Puis le député, s'il est péquiste, il doit avoir la capacité de convaincre de dire oui à l'indépendance du Québec. Et inversement, un député libéral élu ici, dans un contexte où ce serait le Parti québécois au gouvernement, il va devoir, lutter pour que le Québec reste dans le Canada.
C'est là que ça devient intéressant, puis ça va se jouer dans toutes les régions au Québec, mais ton candidat péquiste qui va arriver avec une promesse, il va arriver avec une promesse dans l'optique où le Québec devienne un pays.
Oui, puis c'est pour ça que je pense que le PQ, l'interne, là, va avoir la mainmise sur la personne qui va être candidate, qui va avoir son mot à dire. Ça suffira pas de lever la main. Je pense qu'il va y avoir un push de l'interne pour dire il faut que ça soit quelqu'un parce que il faut que quelqu'un soit solide, effectivement. Il faut que les 125 candidatures soient capables de défendre l'indépendance et dans les bons mots parce que souvent on vient des parties de famille là, avant la Noël. Puis quand ça revient au goût du jour, on dirait ce débat-là, c'est pas tout le temps les mêmes arguments qu'on a, mais tu sais. C'est difficile de débattre avec quelqu'un qui connaît plus ça, tu sais. Fait que c'est important là, d'avoir un candidat qui est solide puis qui a les bonnes qui sait quoi dire.
Ah ben c'est à suivre. Puis en plus, tu sais, c'est des élections à date fixe maintenant au Québec. Ouais. On sait,
5 octobre.
5 octobre, tiens, on le sait. Alors je peux pas croire qu'à 10 mois du 5 octobre, on y a encore tant d'incertitudes. On sait pas si, encore une fois, là, on sait pas si Jean-Bernard Raymond va être candidat. On ne sait pas qui va briguer les suffrages pour le PQ. Ça, c'est un autre bel exemple de contre-pouvoir inexistant sur la scène québécoise. Raymond a eu la vie facile pendant les mandats qu'il a fait à Québec. Il n'y a personne qui a dit quoi que ce soit. PQ était complètement inexistant dans
mais
la région.
Gabriel Arpin
Il y a Gabriel Arpin qui a
il n'a pas beaucoup parlé. Là.
Non, mais il a fait la bonne chose en levant la main l'année passée à la mi-mandat pour dire « je vais l'être ». Puis c'est vrai que les interventions ont été sporadiques. Ils n'ont pas été...
très.
Non, c'est ça. Très. Ils n'ont pas été très... ils n'ont pas été fréquents.
Il s'est économisé.
Mais au moins, il a levé la main. C'est la première chose à faire. Maintenant, il va falloir effectivement qu'il embraye, comme on dit, là, pour... pas critiquer, mais au moins se prononcer sur chacune des décisions provinciales.
C'est long, 4 ans. 4 ans à jouer au chien de garde, alors que ta vie évolue, puis Gabriel Arpin est très jeune. C'est long jouer au chien de garde pendant 4 ans.
Ah, c'est long, puis c'est ingrat aussi. Il y en a qui l'ont fait. Et moi, on l'a fait, je le rappelle. Puis ça y a porté fruit.
C'est vrai.
Hey, on arrive au bout de cette émission, Stéphane, Jean-Philippe, sur les perspectives régionales en 2026, que nous n'avons pas tout énoncé et commenté. Le plus beau, d'ailleurs, dans le métier de journaliste qu'on fait, est-ce que c'est pas de ne jamais exactement savoir de quoi notre journée sera faite et de quoi notre année sera faite?
Ben oui.
Mais ça, ça fait 15 ans que je fais ça, puis à chaque matin, je sais pas ce qui va se passer, puis c'est le fun.
On a des surprises parfois.
Mais on sait qu'on va avoir une annonce dans l'industrie navale. Ça, on le sait.
Oui.
Mais quand?
Deux entreprises qui devraient s'installer.
Oui, mais on le sait, là, ça s'en vient.
Oui.
Mais quand, on a hâte.
Effectivement, a des dossiers sur lesquels on n'a aucun contrôle. On parlait tantôt de Rio Tinto, Faridistan. Les Jeux du Québec, les fameux
Jeux du Québec. Ah oui, les Jeux du Québec, c'est aussi.
Annonce en octobre.
En octobre, avant même temps que notre nouveau député ou notre prochain député.
Est-ce qu'on va, on va les avoir, les Jeux du Québec, de l'été 2029? Qu'en pensez-vous? On a manqué notre coup pour 2027 cette fois-ci.
Mais à chaque fois qu'une municipalité rate son coup, la deuxième fois ou la troisième fois, il l'a. Souvent.
Les chances sont bonnes.
Saint-Georges, ça a été ça. Je pense que la précédente avant ça, c'était ça aussi. Ils ont retenu leur leçon et ils ont eu les commentaires.
Ouais, c'est ça. Je crois pas que l'administration Péloquin se serait lancée dans une nouvelle aventure comme celle-là sans, en sachant qu'ils sont pas capables de l'obtenir.
C'est ça.
Ils ont eu un bulletin, ils ont regardé les notes puis ils ont dit on est capable d'améliorer nos choses. Puis ils se sont relancés dans l'aventure. Donc, il y a des chances.
Stéphane Martin, Jean-Philippe Morin, merci d'avoir participé à cet exercice.
Merci Sylvain.
Merci à toi Sylvain.
Merci à nos interlocuteurs Serge Bergeron et Geneviève Coutu. Merci à Laurent Condoyer au standard téléphonique. La semaine prochaine à l'émission, je vais avoir avec moi toutes les mairesses et maires de Pierre de Sorel. Alors, à mardi prochain.